Bonsoir et bon début de semaine à tous. Justice internationale, la Cour pénale internationale a totalisé 10 ans d'existence hier 1er juillet 2012. Le juge président de cette juridiction a qualifié de globalement positif le travail abattu par cette institution. Cependant, la procureure de la même institution regrette que les pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie figurent parmi les pays non signataires du traité de la CPI. Quel bilan dressé du travail de la CPI 10 ans après sa mise en place? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 2 juillet 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Maître Guy Mouchata, chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Thomas Luaka Losenjola, secrétaire général du MLC. Monsieur Luaka, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Sam Moulenga, conseiller principal en charge des questions juridiques du président de l'Assemblée nationale et directeur des cabinets du secrétaire général de la majorité présidentielle. Maître Moulenga, bonsoir.
Bonsoir, Robert.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Maître Omar Kavota du Nord Kivu qui dit ceci. 10 ans d'existence pour un seul jugement rendu par la CPI, des mandats inexécutés par défaut des polices propres, arrestation des seuls Africains. Voilà les défis qui ont caractérisé en 10 ans cette Cour internationale. Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Je le disais dans mon introduction, la Cour pénale internationale a totalisé ce 1er juillet 10 ans d'existence. Le juge président de la CPI considère le travail de son institution comme globalement positif, alors que la nouvelle procureure de la même institution, elle regrette que les pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie restent toujours non signataires du traité de la CPI. Et ici à Kinshasa, le chargé des communications et porte-parole de la CPI en RDC juge aussi de positif le bilan de la CPI. Depuis sa création jusqu'à ce jour, il estime que cet organe s'affirme actuellement beaucoup plus comme un acteur à la recherche de la justice et de la paix. Toutefois, le porte-parole de la CPI estime que la CPI aura réussi sa mission s'il n'y a plus des suspects des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. On écoute Paul Madidi, chargé de communication et porte-parole de la CPI en RDC, au téléphone de Samuel Kachak.
La Cour pénale internationale aujourd'hui est beaucoup plus universelle qu'il y a quelques années. De plus en plus, elle s'affirme comme un acteur de recherche de plus de justice, de plus de sécurité et de plus de paix. À deux reprises déjà, le Conseil de sécurité des Nations Unies a saisi la Cour pénale internationale pour rechercher la justice. C'était au Soudan et en Libye. 7 pays font aujourd'hui objet des enquêtes de la Cour pénale internationale. 7 autres situations sont à l'étape des analyses préliminaires. En République démocratique du Congo, grâce à la Cour pénale internationale, on a pu mettre la main et juger des auteurs des crimes graves, notamment en Ituri. Et les enquêtes du bureau du procureur se poursuivent notamment dans le Kivu. La Cour pénale internationale aura réussi lorsque il n'y aura plus des suspects pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. La Cour pénale va réussir également si les États sont en mesure eux-mêmes de juger leurs propres citoyens qui commettent des crimes graves.
C'était la Paul Madidi, chargé des communications et porte-parole de la CPI en RDC, au téléphone de Samuel Kachak. Thomas Luaka Losenjola, vous êtes secrétaire général du MLC et député honoraire. Comment vous jugez le travail de la CPI 10 ans après sa mise en place?
Merci beaucoup, Madame Kelly. Bon, le président de la Cour lui-même a dit que c'est globalement satisfaisant. On peut considérer que S'il faut donner un chiffre pour être plus parlant, s'il faut donner la CPI sur 10, je pourrais donner la CPI 3 sur 10.
Pourquoi 3 sur 10?
3 sur 10 parce que nous considérons que au début, lorsque les gens se sont décidés à mettre en place la Cour pénale internationale, c'était dans l'idée de combattre l'impunité, ce qui est une idée noble. Mais on a remarqué que dans le fonctionnement, la Cour pénale internationale, en réalité, c'est une cour politique. Pourquoi c'est une cour politique, si vous permettez, assez rapidement?
Allez-y.
Déjà, dans la saisine, qui a les droits de saisir la Cour pénale internationale? C'est le Conseil de sécurité, c'est les partis États et c'est les procureurs de la République. Mais vous voyez que le Conseil de sécurité intervient. D'ailleurs, vous l'avez vous-même relevé. 3 membres permanents sur 5 avec un droit de veto, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie et la Chine, qui ont les droits de saisir la Cour pénale internationale pour enquêter sur une affaire, et même ils ne reconnaissent pas, ils ne sont pas membres de la CPI. Donc ils ont les droits d'attaquer les autres et d'accuser les autres, mais eux-mêmes ne sont pas membres, ils ne sont pas attaquables. Donc vous voyez déjà qu'il y a un problème qui se pose au départ. Deuxièmement, les crimes poursuivis par la Cour pénale internationale sont des crimes très très graves qui ont d'ailleurs, ce ne sont pas des crimes de droit commun, parce que c'est des crimes politiques, un crime contre l'humanité, un crime de génocide, un crime de guerre, c'est des crimes politiques. Donc on voit déjà par les matières que la Cour est chargée de poursuivre sont des crimes politiques. Maintenant, je disais tout à l'heure pour la saisine, là aussi, on voit des facteurs politiques qui interviennent. Je peux vous donner un exemple. La CPI s'est saisie de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et puis, le procureur Moreno, à un moment, il a envisagé d'aller enquêter sur ce qui s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la zone contrôlée par les éléments favorables à l'actuel président Ouattara. Le président Ouattara a écrit à la CPI en disant que non, vous ne pouvez pas venir enquêter parce que les tribunaux ivoiriens s'en occupent. Là, vous voyez aussi, donc les partis membres de la CPI apportent une appréciation politique sur le travail que doit faire la CPI. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une cour politique.
Et pourquoi les pays avaient accepté sa mise en place si ils savaient qu'ils avaient des tribunaux dans leur pays qui pouvaient juger tous ces criminels, hein?
Non, on a compris qu'il y a des États défaillants comme la RDC qui n'a pas un système judiciaire capable de poursuivre tous ces crimes. C'est une bonne chose que la cour soit mise en place. Mais je vous donne un exemple. Là où la politique intervient, on a un exemple concret au Congo. Ce qui s'est passé à Ituri, la cour pénale internationale s'est saisie de ce qui c'était les crimes qui ont été commis en Ituri en attaquant, en lançant 2 mandats d'amener contre deux acteurs importants, Thomas Lubanga et Bosco Ntaganda. Qu'est-ce qui s'est passé? La République démocratique du Congo a livré Thomas Lubanga et a protégé Bosco Ntaganda. Pourquoi cette discrimination? C'est une discrimination sur base politique.
Et donc pour vous, le bilan est négatif, la Cour est politisée. C'est ce qu'on peut retenir de votre analyse.
La Cour n'est pas politisée, la Cour est politique elle-même par nature.
Merci Thomas Louaka. Maître Sam Moulinga, vous êtes conseiller principal en charge des questions juridiques du président de l'Assemblée nationale et directeur des cabinets du secrétaire général de la majorité présidentielle. Comment vous jugez le travail de la Cour pénale internationale? Elle est politique aussi?
Dire que le travail est politique, je crois que c'est simplifier les choses. La Cour, comme vous savez, a été mise sur pied sous base d'un traité qui a été conclu à Rome. C'était en date du 17 juillet 1998. Il y a des États qui se sont retrouvés. Les États ont eu le temps de discuter clairement et de la manière la plus libre sur le traité qu'ils allaient conclure. Et le traité, lorsque vous le lisez, il définit les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour, il détermine les règles de procédure ainsi que les mécanismes de coopération entre les États et la Cour. Et donc, les États qui ont conclu le traité l'ont fait en connaissance de cause. Et ces États savent très bien que la compétence de la Cour pénale internationale n'est qu'une compétence complémentaire. Il y a la priorité qui est d'abord accordée aux juridictions nationales. Donc, la compétence, la Cour pénale internationale ne vient que compléter dans les cas où les juridictions nationales ne sont pas saisies ou ne peuvent pas être saisies pour l'une ou l'autre raison. Donc, si nous devons faire le bilan de la Cour, je crois que nous devons d'abord partir des conditions du contexte. dans lequel la Cour, la discours a été mise sur pied avant de pouvoir chercher à savoir comment les acteurs ou les partis ou les États concernés se comportent devant l'une ou l'autre situation. Donc, je peux dire que la Cour est en train de faire son travail. Elle l'a fait, comme l'a si bien dit l'un des responsables, elle a fait un travail que nous, à notre niveau, nous pouvons jugé positif, mais qui est susceptible d'une certaine amélioration.
Et lorsque, par exemple, la nouvelle procureure dit, par exemple, qu'elle regrette que les grands pays comme les États-Unis, la Russie et la Chine ne figurent pas parmi les pays signataires du traité de la CPI, comment on peut comprendre cela?
Bon, il est vrai que ces pays n'ont pas, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas voulu ratifier l'accord, mais ça, je crois qu'ils n'ont fait qu'exercer une liberté qui doit leur être reconnue. Il est aussi vrai que ces pays, dans le contexte international, sont d'un poids politique tel que leur concours aurait dû faire évoluer le travail de la Cour, dans un sens positif évidemment. Et du simple fait qui ne participent pas pleinement à l'activité de la Cour, cela peut, dans une certaine mesure, constituer un certain handicap. Mais ce qu'on peut recommander aux partis, du moins les partis qui sont membres, qui ont librement signé le statut de Rome, qui ont ratifié le statut de Rome, c'est de voir comment, à leur niveau, elles peuvent déjà améliorer l'activité de la Cour, avant de pouvoir peut-être impressionner les autres qui ne veulent pas, eux, venir ratifier. Surtout que, comme l'a dit mon interlocuteur tout à l'heure, les mécanismes de saisine, il n'y a pas que le conseil de sécurité. Il y a le procureur près de la Cour lui-même qui peut déclencher les enquêtes. Il y a les États, donc les États partis. Et même, parfois, les États qui ne sont pas membres peuvent, dans certaines conditions, susciter des enquêtes à l'égard soit de leurs ressortissants, soit à l'égard des crimes qui ont été commis sur leur territoire respectif.
Alors, Maître Sam Moulenga, parlons de la RDC. Est-ce que la RDC a ratifié le statut de Rome parce que sa justice, elle trouve sa justice défaillante, comme l'a dit l'honorable Thomas Loka?
Puisque elle trouve sa justice défaillante, je ne crois pas. Vous êtes vous-même, nous sommes tous témoins du fait qu'il y a eu, à un certain moment, avec la triste histoire que nous avons connue, des événements de triste mémoire. Il y a eu des atrocités, il y a eu des crimes d'une certaine gravité qui ont eu à être commis à une certaine période. Soit puisque le pays a été envahi par des agresseurs, soit pour dans des conditions que nous connaissons très bien. Et la RDC a estimé, comme tous les autres pays, que la justice nationale pouvait soit,
les autorités n'ont pas fait confiance à la justice, c'est comme ça.
N'ont pas fait confiance, non, puisque
et
vous n'allez pas dire.
Tous ces Congolais que l'on voit à la Cour pénale, ils ne pouvaient pas être jugés ici.
Dans la mesure où nous disons que la justice internationale, qui est garantie par la Cour pénale internationale, n'est qu'une justice complémentaire. Donc, a priori, c'est la justice nationale qui est privilégiée.
Mais ils n'ont pas été jugés ici avant d'être envoyés à la Cour pénale. Je prends le cas de Thomas Lubanga, Goudjolo, ils ont été jugés ici avant d'être envoyés à la Cour pénale?
Ils n'ont pas été jugés ici, c'est plus que...
Jean-Pierre Bemba. Allez-y, je vous écoute.
Oui, ils n'ont pas été jugés ici, justement parce que le pays est signataire du statut de Rome.
Mais puisque vous dites que la Cour est complémentaire, donc on commence les jugements ici, et lorsqu'on voit qu'on n'est pas en mesure de continuer avec les jugements, là, on fait appel à la Cour pénale.
Non, le caractère complémentaire ne dit pas qu'on doit commencer avec le jugement ici. Le caractère complémentaire veut que, lorsque la justice nationale est saisie, que la justice internationale n'entre pas en jeu. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça.
Merci Maître Sam Moulenga. La réalisation me signale que Maître Guy Mouchata est en ligne. Maître Guy Mouchata, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé des programmes lutte contre l'impunité au Centre international pour la justice transitionnelle. C'est une ONG qui travaille avec, qui collabore avec la CPI. Comment vous jugez le bilan? Quel bilan vous dressez du travail de la CPI 10 ans après sa mise en place?
D'abord, il faut dire, saluer le fait que la communauté internationale puisse avoir eu ce courage de pouvoir instituer une juridiction permanente de lutte contre l'impunité. Parce que vous savez, madame, depuis les temps, la nuit des temps, les êtres humains ou les nations ont eu du mal à pouvoir s'accorder, à pouvoir créer une structure qui puisse lutter efficacement contre l'impunité. Et cette structure établie depuis 2002 est devenue fonctionnelle, a eu effectivement à réaliser un certain nombre d'actions qui font que son bilan doit être jugé globalement positif malgré des critiques et des problèmes encore qui restent, n'est-ce pas, à affiner et à résoudre.
Quel problème, par exemple, Maître Guimouchata?
Effectivement, il y a des problèmes qui restent en suspens. C'est, par exemple, la question de l'adhésion au traité de Rome de certains pays, comme on venait d'en parler tout à l'heure. Il y a des questions de stratégie, par exemple au niveau des poursuites, qui doivent être davantage affinées et inclure l'ensemble des crimes qui sont commis pour des cas qui sont référés devant la Cour. Il y a aussi, au niveau justement du principe de la mise en œuvre du principe de complémentarité, des efforts qui doivent être fournis par des États parties pour davantage mettre en place dans leurs systèmes nationaux les règles qui puissent permettre de mieux réaliser les sept principes de complémentarité et de coopérer pleinement avec la Cour. Il y a comme ça un certain nombre, je dirais, des tâches ou des défis qui sont liés au fonctionnement de la Cour, dont le principal, évidemment, reste que les interparties puissent pleinement collaborer à la mise en œuvre et à l'exécution des décisions aussi de la Cour.
Alors, Maître Guimouchata, comment vous répondez à tous ceux qui pensent que la Cour est politique et même politisée?
Je ne dirais pas que la Cour est politique. Il se pourrait que les uns et les autres, en fonction de leur lecture, puissent entrevoir dans la stratégie, par exemple, de poursuite du procureur, un certain nombre d'éléments politiques. Mais ça ne peut pas être autrement dans la mesure où la Cour pénale internationale elle-même ne dispose pas des polices pour procéder à l'arrestation des présumés auteurs. La Cour délivre des mandats et s'en remet aux États parties qui doivent pleinement coopérer parce que ces États ont accepté librement l'obligation de pouvoir qui leur incombe d'après les statuts de Rome qu'ils ont ratifiés. Maintenant, quant à la Cour en tant qu'institution judiciaire, je ne pense pas que cette institution puisse être politique. Nous avons eu des décisions au cours de ces 10 dernières années, notamment dans les cas, par exemple, de Thomas Lubanga, où nous avons vu la Cour travailler de manière, je dirais, indépendante et impartiale, voire un peu démontrer son impartialité, même vis-à-vis du procureur, remettant en cause certaines décisions ou certains éléments que le procureur avançait au niveau de la chambre préliminaire ou au niveau de la chambre de première instance, voire même au niveau de la chambre d'appel. La Cour, en tant qu'institution judiciaire, fonctionne dans le respect des normes internationales qui régissent l'administration de la justice. Et ces normes sont contenues dans les statuts de Rome que les États parties ont ratifiés. Comment pensez-vous, madame, que les États qui sont signataires de cette convention pouvaient-ils tolérer que la Cour puisse fonctionner avec des critères ou des normes qui soient des normes qui ne respectent pas les règles minimales de fonctionnement de la justice au niveau international? On ne peut pas prétendre que la Cour est politique. Je pense qu'il s'agit d'une affirmation qu'il faut essayer de confronter à la réalité. Parce que nombreux sont aussi des individus qui ne suivent pas au jour le jour le fonctionnement de la Cour. Mais lorsque on s'en remet à la manière dont fonctionne la Cour, l'État qui est pris pour, l'État qui est donné aux parties au procès pour pouvoir se défendre, pour disposer de tous les moyens de défense, de disposer de tous les moyens de droit et pour défendre leur cause, on ne peut pas prétendre que la Cour fonctionne sur des bases politiques. Elle fonctionne sur des bases qui sont des bases d'administration de la justice et dont les normes répondent à un procès équitable.
Alors, Maître Guy Mouchata, il y a cet auditeur du Nord Kivu qui dit ceci, Maître Marc Avota, 10 ans d'existence pour un seul jugement rendu par la CPI, des mandats inexécutés, par défaut des polices propres, arrestation des seuls Africains. Voilà ce qui a caractérisé en 10 ans cette Cour internationale. Comment vous réagissez?
En 10 ans, une décision rendue, oui. On peut peut-être, lorsque on se réfère au fonctionnement de notre justice locale, prétendre qu'il s'agit en fait d'une perte de temps. Mais n'oublions pas, mettons-nous dans une perspective à des longs termes, en nous disant la Cour est une institution permanente. C'est la première Cour permanente au niveau international. Elle a bénéficié, je vais dire, de l'appui de certains États partis, mais pas totalement des autres États partis. Et dans son fonctionnement, la Cour devait roder ses propres instruments, des instruments qui sont mis à sa disposition, notamment les règles qui sont contenues dans les statuts de Rome, les dispositions qui sont contenues dans les autres instruments dont dispose la Cour. Et dès là, il fallait procéder à des enquêtes qui, somme toute, ne sont pas des enquêtes faciles à faire. Prenons le cas de la République démocratique du Congo. Nous sommes un État vaste comme un continent. Avec tout ce que nous avons connu, il n'est pas facile de procéder à des enquêtes et surtout d'obtenir que les États puissent délivrer les personnes qui sont poursuivies contre lesquelles la Cour a lancé des mandats.
Merci.
Et dans ces cas, la Cour devait essayer de trouver des moyens de coopérer avec les États, de conduire des enquêtes, tout cela prend du temps.
Et merci, Maître Guy. En
la Cour a essayé de roder les instruments, dispose d'une certaine jurisprudence, et cela, on espère bien que dans la suite du temps, la Cour pourra fonctionner de manière plus adéquate et en respectant davantage les principes d'un délai raisonnable par rapport aux affaires qui sont pendantes devant cette institution.
Merci, Maître Guy Mouchata. Thomas Louaka, il y a cet auditeur, Augustin Kaindo, qui dit ceci. Le bilan est quelque peu satisfaisant pour cette jeune institution judiciaire qui parvient à construire sa réputation et à dissuader tous les potentiels criminels de notre temps. Est-ce que la Cour arrive-t-elle à dissuader tous les criminels?
Je ne sais pas avec ce bilan qu'on vient d'annoncer là, en 10 ans, une seule condamnation, je ne sais pas si ça va dissuader. Ce qui est drôle, c'est que ce matin, je suis vu sur RFI, un des membres influents dans Sardine, les gens qui occupent le nord du Mali, il a dit, il connaît que la Cour pénale internationale existe, il a entendu madame le procureur menacer de poursuivre ceux qui sont en train de commettre des crimes là-bas, et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, on s'en fout. On ne connaît même pas la Cour, nous c'est la charia qui nous intéresse. Donc je ne pense pas qu'il y a totalement cet effet dissuasif. Pourquoi? Quelqu'un qui se lance dans une rébellion, qui commet des actes aussi graves, c'est-à-dire quelqu'un qui risque sa vie, il peut mourir, celui qui fait la rébellion, il risque sa vie. Donc vous pensez que celui qui a déjà pris le risque de mourir va craindre parce qu'il dit dans 10 ans peut-être la Cour pénale viendra m'arrêter, j'irai et je serai jugé en Hollande. Non, je ne pense pas. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut renforcer les mécanismes nationaux. Nous connaissons un peu ce que coûte la Cour pénale internationale en termes de finances. Si on voulait vraiment combattre l'impunité, je pense qu'il faut renforcer les appareils judiciaires nationaux. Par exemple, la RDC. Nous avons appris, je ne sais pas si c'est exact, peut-être que les gens de la CPI pouvaient nous dire, c'est 8 millions de dollars par mois de fonctionnement de la CPI. Vous donnez 8 millions de dollars par mois à la justice congolaise, je pense que vous avez des magistrats très bien payés, très motivés et des magistrats très bien formés. Nous pensons que nous aurons un très bon appareil judiciaire chez nous. Mais quand je dis que c'est politique, pour revenir à ce que j'avais affirmé tout à l'heure, je vous donne, madame, quelques exemples qui nous préoccupent. Vous savez que dans les statuts de Rome, il y a l'article 16, permet, donne le droit au Conseil de sécurité d'arrêter des poursuites et des enquêtes pour des raisons politiques. Le Conseil de sécurité peut dire que non, vous ne poursuivez pas ces messieurs-là, vous ne poursuivez pas ces crimes-là parce que nous considérons que ce n'est pas opportun. C'est une intervention politique. Une interférence politique. C'est écrit dans, je n'invente pas, c'est l'article 16 des statuts de Rome. Deuxièmement, le financement de la CPI, j'en parlais tout à l'heure. Quelles sont les ressources de la CPI? c'est les partis membres, les contributions et les conseils de sécurité, les Nations Unies qui financent aussi cette cour. Mais quel est le plus grand bailleur de fonds des Nations Unies? C'est les États-Unis. À la fois, ils ne sont pas membres du traité, mais ils financent indirectement par le biais des Nations Unies cette cour. Ça a pour, qu'est-ce que ça a pour conséquence? Ça veut dire que ça devient un instrument politique. Nous ne sommes pas concernés directement, mais nous pouvons agir à travers les conseils de sécurité et pour poursuivre certaines personnes. Je vous donne un exemple. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui pensent que Bachir, le président soudanais, a commis des graves crimes au Darfour, mais vous savez qu'il y a une polémique là-dessus. Je pense qu'entre Amnesty International et Human Rights, on dit non, il n'y a pas eu génocide au Darfour. Mais les conseils de sécurité, les procureurs ont qualifié ces crimes-là de génocide. Donc vous voyez, même sur la définition des crimes à poursuivre, il y a débat. Dans les statuts de Rome, quels sont les crimes que peut poursuivre la Cour pénale? On parle des crimes de guerre, et des crimes de génocide, et on parle des crimes d'agression. Non, crimes d'agression. Mais jusqu'aujourd'hui, et les statuts le disent tout le même, les crimes d'agression n'ont jamais été définis. Agression, ça veut dire quoi? Ça veut dire les forces d'un État traversent la frontière pour aller agresser un autre État. Pourquoi jusqu'aujourd'hui on n'a jamais défini les crimes d'agression pour que la CPI puisse poursuivre les États qui agressent leurs voisins? C'est pour des raisons politiques. Donc voilà, tout ça nous préoccupe. Nous disons que l'idée de départ est très bonne. Il faut lutter contre l'impunité. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que la CPI est devenue un instrument aux mains de certains États, aux mains de certaines puissances pour pouvoir régler des comptes politiques. Je finirai par ce dernier exemple, le cas de la RDC. La RDC, dans un premier temps, a dit... Nous vous livrons Thomas Lubanga, on protège Bosco Ntaganda pour des raisons de paix. Quelle est la position de la RDC aujourd'hui? Non, même si nous arrêtons Bosco Ntaganda, nos tribunaux locaux vont les juger, on ne sera pas envoyé à la CPI. Pourquoi Thomas Lubanga doit aller à la CPI? Bosco Ntaganda doit être jugé par les tribunaux locaux.
Merci Thomas Luaka. Maître Sam Moulenga, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Maître Oswald Mbaka, depuis Kinshasa. Pour les 10 ans de la Cour pénale internationale, le bilan est mitigé autant pour l'institution que pour les États parties en ce qui concerne leur collaboration avec la dite institution judiciaire supranationale. Mais au-delà de toutes les critiques souvent formulées à son endroit, la véritable préoccupation aurait consisté à s'interroger sur ce que serait l'état de droit de l'homme et du droit humanitaire si la Cour pénale internationale n'avait pas existé. De la réponse à cette interrogation permettra d'apprécier la contribution quant à l'évolution de la justice pénale internationale.
Maître Samoulinga, brève réaction. Que seraient les droits de l'homme et les droits humanitaires si la CPI n'avait pas existé?
Je crois que cette question-là vient renforcer ce que nous avons soutenu tout à l'heure là, à propos du bilan sur la Cour pénale internationale, en disant que, comme nous avons été relayés tout à l'heure, le bilan était mitigé, c'est-à-dire que elle a fait du travail, mais ce travail mérite ou il est susceptible de connaître une certaine amélioration. Cela signifie que si la Cour pénale internationale n'existait pas, ça serait le chaos, surtout dans des États comme ceux du tiers-monde.
Mais avant 2002, est-ce que c'était le chaos?
Avant 2002, vous savez vous-même que l'idée de mettre en place une cour permanente ne date pas d'aujourd'hui. Le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale déjà, il y a eu le procès de Nuremberg, comme vous savez. Il y a eu, dans un passé récent, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Il y a eu le tribunal pénal pour les massacres commis en Yougoslavie. On a senti que il fallait, au regard de certaines atrocités, avoir une cour permanente. D'où l'idée de mettre en place la Cour pénale internationale.
Et donc, comme vous le dites là, le bilan est mitigé. Et cet auditeur ajoute que le bilan est mitigé autant pour l'institution que pour les parties, les États parties, on sait, qui concernent leur collaboration. Est-ce que les pays qui ont ratifié les statuts des Roms et la CPI ont une collaboration sincère?
Les statuts de Rome, comme nous l'avons dit tout à l'heure, définissent aussi bien les crimes qui sont concernés qui sont de la compétence, qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, les procédures et même les mécanismes de coopération entre les États membres, ou donc les États parties, et la Cour. Et nous savons que le procureur général, de temps en temps, arrive à s'exprimer sur la manière dont l'un ou l'autre État coopère avec la Cour pénale internationale. Donc, nous estimons que l'institution est là, l'institution existe. Les animateurs qui sont appelés à faire évoluer l'activité de cette institution-là sont des humains, et la coopération dépend évidemment de l'une ou l'autre façon de voir de chacun de ces animateurs.
Et que pensez-vous de ceux qui pensent que cette Cour a été créée pour les Africains ?
Que la Cour a été créée pour les Africains, nous avons...
Parce que jusque-là, il y a des Africains qui sont arrêtés à la Haye.
Si jusque-là, les atrocités les plus graves ne sont constatées qu'en Afrique, vous allez admettre avec moi que jusque-là, il n'y a que les Africains qui peuvent être justiciables, qui peuvent avoir été concernés par les mandats.
Mais vous-même, Maître Sam Moulenga, depuis 2002, est-ce que les atrocités, c'est pas seulement en Afrique?
Les atrocités, il y en a. Nous savons très bien que la Syrie est sur la sellette pour le moment. Il y a le Conseil de sécurité qui est en train de chercher comment y pénétrer. Avec l'aide de la Cour pénale internationale. Donc, nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire la Cour a été créée sur base d'un traité qui est très clair, qui définit les crimes, qui définit les procédures d'enquête, les procédures de poursuite, ainsi que les mécanismes de coopération.
Merci Maître Sam. Maître Guy Mouchata, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud-Kivu.
Robert Bonne de Bukavu, Sud-Kivu. À mon avis, le bilan du travail accompli par la CPI à 10 ans de sa mise sur pied n'est pas tout à fait satisfaisant. À y regarder de très près, la CPI ne s'est pas en réalité présentée comme une justice véritablement internationale, mais plutôt comme une justice de plus fort au détriment des plus faibles.
Maître Guy Mouchata, réaction.
Oui, d'abord, madame, avant de réagir, quelques précisions. Tout à l'heure, on a parlé du fait que les crimes d'agression n'étaient pas définis, mais que non. On sait que depuis la conférence de révision du statut de Rome qui s'est tenue à Kampala, les États parties ont défini les crimes d'agression. Et deuxièmement, à propos de l'article 16 du statut de Rome, L'article 16 ne donne pas le pouvoir au Conseil de sécurité d'arrêter les poursuites, mais plutôt de suspendre les poursuites pour des raisons d'opportunité liées, n'est-ce pas, à la paix. Il ne s'agit pas d'arrêter les poursuites, mais d'une suspension. Et par rapport à la réaction de notre ami qui dit que la CPI est un instrument au service des plus forts, mais ce qui est étonnant, c'est généralement, et l'argument selon lequel ce pays a été créé pour les États africains, mais ce sont ces États africains qui, pour la plupart, ont renvoyé la situation de leur propre pays devant la Cour pénale internationale. Au début de l'émission, vous demandiez pourquoi la RDC avait renvoyé la situation à la Cour pénale. La raison était simplement, la raison qui était évoquée, c'était l'incapacité de nos juridictions à pouvoir, n'est-ce pas, traiter de ces crimes, les crimes du droit international. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons nous demander, 10 ans après, qu'avons-nous fait pour, n'est-ce pas, renforcer nos propres juridictions pour qu'elles soient capables de pouvoir prendre en charge ces contentieux. C'est bien de dire que la Cour pénale internationale travaille mal, mais nous-mêmes, puisque nous avons cette possibilité de pouvoir rendre justice au niveau de nos États, que faisons-nous, madame? Ce n'est pas au jour d'aujourd'hui si on peut dire que la justice nationale a été réformée dans le sens de pouvoir donner une satisfaction à nos nombreuses victimes et à l'ensemble des communautés affectées. Je pense que non. On est vraiment loin de là, et la Cour pénale internationale essaye de faire un travail qui peut justement donner un exemple aux juridictions nationales, aux États qui veulent bien lutter contre l'impunité des crimes graves, de pouvoir justement se référer à son fonctionnement et de tirer des leçons pour pouvoir mener à bien, n'est-ce pas, ce processus de lutte contre l'impunité qui doit, n'est-ce pas, rendre justice aux innombrables victimes des crimes graves.
Merci Maître Guy Mouchat. On va prendre quelques réactions des auditeurs. Jacques Assungue de Bukavu, Sud Kivu, le travail abattu par la CPI une décennie déjà mérite des éloges. Toutefois, beaucoup reste à faire pour son fonctionnement réel et harmonieux. La lenteur dans les traitements des dossiers, le manque d'une branche armée spécifique pour exécuter les arrêts et d'autres décisions de la Cour en sont quelques défis à relever. Bernard Itunda de Walika, Léonore Kivu, je pense que la CPI est un animal féroce qui croque les petits animaux faibles et fragiles. Assistant Samy Djakongwa de Maïgui en province orientale, 10 ans jour pour jour, la CPI donne l'impression d'être faite pour les Africains et plus particulièrement les Congolais. Il y a lieu qu'elle s'amende pour mériter la confiance des Africains en général. Samson, 10 ans après, je constate que la CPI semble être un dépôt où seuls les leaders africains sont pris en otage. Elle est aussi en mesure de lancer des mandats d'arrêt qui sont devenus des rêves irréalisables. Honorable Thomas Luaka, on constate que dans les réactions, beaucoup de gens reviennent sur le fait que la CPI est une cour créée pour les Africains uniquement.
Oui, c'est l'impression qu'on peut avoir, parce que tout à l'heure, Maître Moulenga a semblé appuyer cette idée en disant qu'il n'y a que les États faibles où les atrocités ne sont commises qu'en Afrique. Ce n'est pas vrai. Nous savons ce qui se passe en Birmanie. Nous savons ce qui se passe au Pakistan. Des autorités pakistanaises soutiennent les talibans en Afghanistan, qui viennent poser des bombes dans des marchés. C'est des crimes de guerre. Pourquoi ils ne sont pas poursuivis? Pourquoi ces autorités ne sont pas poursuivis? Pourquoi les Birmans ne sont pas poursuivis? Parce que c'est une question des rapports de force. Des rapports de force. Donc, mais pour revenir un peu à ce que Maître Guy a dit tout à l'heure par rapport à l'article 16, il a tout à fait raison. Le Conseil de sécurité n'arrête pas les poursuivre. Mais le Conseil de sécurité peut suspendre pour 12 mois et renouveler cette suspension. Donc vous voyez que ça peut aller, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc c'est une intervention politique. Maintenant, quand on dit que la CPI, c'est vrai, tout ce que je suis en train de dire, c'est pour pouvoir essayer d'améliorer le fonctionnement de la CPI parce qu'il y a beaucoup de failles. Je vous donne un exemple concret qui me concerne particulièrement. En 2009, la Cour pénale internationale prononce un arrêt de mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba. Il dit, monsieur, vous pouvez rentrer chez vous, et vous viendrez, vous présenterez quand on aura besoin de vous. Pourquoi Bemba n'a jamais été libéré? Parce que aucun État membre n'a accepté de le prendre comme lui accorder la garde, qu'il puisse aller attendre en étant en liberté, aller dans ce pays-là. Vous voyez là aussi, la coopération est à géométrie variable. Lorsqu'il s'agit d'arrêter Jean-Pierre Bemba, les États coopèrent, en particulier la Belgique. Mais lorsqu'il s'agit maintenant, la Cour dit qu'il peut rentrer chez lui, personne n'accepte de prendre Jean-Pierre Bemba chez lui, il refuse de coopérer avec la Cour pénale internationale. Là aussi, nous disons, c'est des appréciations parfaitement politiques qui entrent en ligne de compte.
Je vais vous redonner la parole. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujima et au Kassai Oriental, Thomas Luaka. Vous allez réagir brièvement.
C'est Galvani Placide à Mbujima, au Kassai Oriental. Pour moi, le bilan de la CPI est positif car elle a essayé de mettre hors d'état de nuire certains prédateurs dans certains pays, surtout africains, incapables de régler leurs propres affaires. Néanmoins, beaucoup reste à faire concernant les pays considérés comme puissants et aussi l'impunité.
Brève réaction.
Brève réaction, je vous dis, et nous savons tous, Thomas Lubanga est en prison, il a été condamné, on entend maintenant les montants de la condamnation, n'empêche qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a encore la guerre est à Ituri. Ça n'a pas amené la paix à Ituri. Donc il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Ce n'est pas la CPI qui mettra la paix en RDC, c'est l'État congolais. Avec une armée, une police et une justice digne de ces noms. Il ne faut pas qu'on se leurre en se disant la CPI là, la paix va revenir.
Merci Thomas Luaka. On va prendre deux autres réactions rapidement. Jean-Bernard Mibeko de Mbandaka dit ceci. Pour parler de bilan, il faut d'abord savoir quels ont été les objectifs fixés et comparer ces objectifs à ce qui a été réalisé. À suivre de près, plusieurs mandats ont été lancés uniquement contre les Africains. En quoi alors cette cour est-elle internationale? N'est-elle pas devenue une cour pénale africaine? Maître Sam Moulenga, avec l'arrivée de la nouvelle procureure, certaines personnes critiquent quand même la manière dont les choses se passent à la Cour pénale internationale. Est-ce qu'on peut espérer à quelque chose, à un changement sur le fonctionnement même de la Cour.
Bon, personnellement, je crois que la nouvelle procureure va travailler au regard des textes qui existent, donc en se basant notamment sur le statut de Rome et sur les différents textes qui guident le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Personnellement, je trouve dangereux ou hasardeux, si je peux dire, de chercher à faire, à établir un bilan de la Cour pénale internationale en ne nous basant que sur des aspects pathologiques du fonctionnement de cette Cour. Je crois que la réaction de tout à l'heure de l'auditeur de Mbandaka est une réaction judicieuse. Il faut se poser la question. Évidemment, l'auditeur a chuté de sa manière. Je crois que je peux aussi chuter de ma manière. C'est-à-dire, il faut commencer par se poser la question de connaître les objectifs que s'est fixé la Cour. Quels sont les objectifs pour lesquels la Cour pénale internationale a été mise en place? Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour améliorer le rendement de la Cour pénale internationale? Et je dois aussi ajouter que nous ne pouvons pas, nous Congolais, nous baser sur des situations qui se passent dans d'autres pays, sous d'autres cieux, en Afghanistan, en Syrie, pour nous dérober de notre propre responsabilité. Il faut que nous ayons le courage de nous poser clairement la question de savoir les cas qui ont été déférés, du moins les cas qui nous concernent, devant la Cour pénale internationale. Est-ce qu'ils rentrent dans le cadre de ce qui est prévu par le statut de Rome? Je crois que c'est ça la question fondamentale qu'il faudrait se poser. Ça ne sert à rien de divaguer, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Il faut se poser des questions précises et être capable de répondre à ces questions pour être en mesure d'établir un certain bilan.
Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Il reste moins de 4 minutes. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer, finalement, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le rendement de la Cour pénale internationale à ce jour, 10 ans après?
Il est vrai que c'est une justice des humains qui est rendue par des humains, qui ont des humeurs, qui ont leurs défauts, qui peuvent, pour une raison ou pour une autre, évoluer dans un sens ou dans un autre. Mais nous sommes là. Heureusement que nous sommes régis par des textes. La première approche va consister à chercher à savoir ce que disent les textes. La plupart des Congolais ne se donnent même pas la peine de savoir quel est le texte qui a institué la structure en question, qu'est-ce qui est prévu, les mécanismes de fonctionnement et tout ça. Il faut commencer par connaître les textes et puis chercher à savoir comment le fonctionnement est en train de s'opérer avant de se poser la question de connaître les humeurs ou de savoir pourquoi tel animateur a posé tel acte à un tel moment.
Merci, Maître Sam Moulinga. Je considère cela aussi comme votre conclusion. Maître Guy Mouchalta, nous sommes à la fin de l'émission pratiquement. En un mot, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le fonctionnement de la Cour pénale aujourd'hui? C'est vrai que vous avez dit que le bilan était positif, mais qu'il y avait des choses à améliorer.
Je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'abord de commencer par apporter son soutien au travail de la Cour. Parce que on peut se poser la question de savoir, il y a quelques Congolais qui ont commis des crimes qui sont devant la Cour. Mais que sont devenus ceux qui sont le plus nombreux, les présumés auteurs, qui sont le plus nombreux qui sont restés au pays? Qu'est-ce que nous en avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait de nos innombrables victimes? Ont-elles obtenu justice? Donc nous devons continuer à soutenir les bons exemples de la lutte contre l'impunité que constitue la Cour pénale internationale. Et par la suite, nous devons essayer de mettre en œuvre le principe de complémentarité en renforçant effectivement notre système judiciaire national pour qu'il soit capable de pouvoir juger les nombreux auteurs de crimes qui courent encore dans nos rues, si pas dans nos communautés. Et ainsi, nous pourrons véritablement non pas seulement jeter une pierre à la CPI, mais dire, voilà, nous jetons une pierre et en contrepartie, nous nettoyons dans notre maison, nous nous arrangeons pour instaurer un système qui soit efficace. Nous devons pas les...
Merci Maître Guy Mouchat, on n'a plus beaucoup de temps. Thomas Louaka, en 30 secondes, votre conclusion.
En 30 secondes, pour améliorer la CPI, je pense que la première chose à faire, il faut revoir les liens avec les conseils de sécurité, améliorer les rapports. On ne peut pas accepter qu'un membre du conseil de sécurité puisse intervenir alors qu'il n'est même pas membre de la Cour. Respect des textes par les procureurs.
Troisième chose,
la saisine, il faut élargir la saisine. Qui a le droit de saisir la CPI, il faut élargir. Et
enfin,
dernière chose, renforcer la coopération entre les États membres et la CPI. Et non pas cette coopération
déséquilibrée. Merci Thomas Louaka, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Merci à Sylvain Matundu qui est à la technique, au micro, qui est écouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne soirée chez vous et bon suivi de programme sur la fréquence de la paix.